Il semble que vous vous êtes mis en retrait, non? Je vais devoir avancer le pupitre de 2 mètres. Je vois en plus petit. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Moi aussi, Dieu m'a montré une parole. Une parole merveilleuse dans Psaume 138, au verset 2. Un verset assez extraordinaire. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta vérité. Et écoutez bien ceci. Oui, tu as surpassé ta réputation dans l'accomplissement de tes promesses. Tu as surpassé ta réputation dans l'accomplissement de tes promesses. C'est extraordinaire. La réputation de Dieu au temps d'Abraham, on ne le connaissait pas. Dieu n'était pas connu parce qu'on avait perdu sa connaissance depuis la création, avec le péché. Ben les gens ont perdu la connaissance de Dieu. On est tombé dans l'idolâtrie. On a fait de Dieu, on a créé des dieux à l'image de l'homme, à n'en plus finir, dans toutes les civilisations. Et les gens ne connaissaient plus l'Éternel, le Créateur qui a fait les cieux et la terre. Plus personne n'y croyait. Et Abraham, Dieu se révèle à lui. Et Dieu dit à Abraham, je te rendrai ton nom célèbre. Aujourd'hui, qui ne connaît pas Abraham? Connu de tout le monde. Hein, de tous ceux, en tout cas, qui confessent une religion monothéiste. Il est connu par la terre entière. Mais c'est Dieu qui voulait être connu. Au travers de cela, vous voyez que Dieu commence par les petites choses. Dieu commence par un individu pour en arriver à lui donner des promesses. Et les promesses vont s'accomplir. Et au travers des promesses accomplies dans la vie d'un homme, la réputation va se faire connaître sur la terre petit à petit. Donc une personne qui commence à vivre les promesses de Dieu, et ça finit par se savoir, et finalement ça va se communiquer de génération en génération dans des gens qui vont mettre leur foi en action, pas que tous l'ont fait, mais bon, ceux en tout cas qui ont mis leur foi en action comme Abraham le croyant, ont vu l'accomplissement des promesses de Dieu. Et la réputation a augmenté. La réputation de Dieu, qui a commencé tout petit, s'est manifestée sur la terre entière parce que Dieu est fidèle. Dieu ne peut pas donner une promesse sans l'accomplir. Et donc, la réputation de Dieu est mondiale parce que, non seulement il est le créateur des cieux et de la terre, parce qu'il s'est fait connaître au travers d'un homme. Et parce qu'il est fidèle dans les promesses, ce qu'il dit, il accomplit toujours. Et c'est ainsi qu'on voit dans ce psaume qu'on va relire, le petit passage que je vous l'ai lu. Tu as surpassé ta réputation. Tu as surpassé ta réputation dans l'accomplissement de tes promesses. Dieu accomplit toujours ses promesses. Peut-être la foi de certaines personnes est morte, mais la fidélité de Dieu est une vérité extrême. Donc, tu as surpassé ta réputation dans l'accomplissement de tes promesses. Dieu promet et il accomplit. Toujours. Toujours. Il accomplit parfaitement. Tu as surpassé ta réputation. Surpassé. Une réputation extrême. Parce que un Dieu fidèle. Voilà, ça c'est une petite méditation. Avant ce que je voulais donner, et c'est vrai que c'est bien sûr les yeux de la foi qui s'emparent de ces choses. C'est les yeux de la foi. Nous devons avoir les yeux de la foi, les yeux du cœur. Hein? Alors, tout ce qui est mort peut ressusciter. Vous y croyez ça? Jésus est mort, hein, à la croix. mais il a ressuscité. Si quelque chose est mort en nous, il peut ressusciter, d'accord? Ça, c'est important aussi. Dieu veut nous ouvrir les yeux à sa vision. Dieu veut nous ouvrir les yeux à sa vision. Dieu veut nous aider à passer de l'incrédulité et du doute à la foi. C'est important de passer de ce qui est négatif à quelque chose d'authentiquement positif. Et je vous invite à regarder dans Jean au chapitre 20, verset 19. Jean 20, à partir du verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées par la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint et debout au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous ». Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « Que la paix soit avec vous ». Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets mon doigt à la place des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, et debout au milieu d'eux, il leur dit, « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. » Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Nous allons prier. Seigneur Père, merci Jésus de parler à nos cœurs ce matin. Agis Père par ta puissance, éclaire nos vies Seigneur. Nous voulons être des croyants qui ont les yeux ouverts sur les réalités spirituelles. Nous voulons vraiment te suivre. Merci Jésus. Merci Seigneur. Thomas était prêt à mourir avec Jésus. C'est un des seuls disciples qui était prêt à mourir avec Jésus. Lui était déterminé. Jésus annonçait qu'il allait mourir. Thomas était prêt à aller jusqu'au bout et mourir avec Jésus. Mais en tout cas, quand Jésus est apparu ressuscité, il n'était pas au milieu des disciples, et il n'était pas avec les autres disciples, et donc il n'a pas voulu croire. Quand les disciples sont venus, les autres sont venus lui dire, on a vu le Seigneur ressuscité, il n'a pas voulu les croire. Moi, si je ne peux pas mettre mon doigt dans la marque des clous de Jésus, et mettre ma main dans son côté, je ne croirai pas. Il ne faut pas me raconter des blagues. Ça, vous n'allez pas faire gober ça. Et Thomas était incrédule. Et donc, Jésus va revenir au milieu de ses disciples, non pas par la porte, ils se retrouvent là, ils ont barricadé la porte, ils ont fermé la clé, ils ont peur, ils sont très craintifs parce que ils sont pas sûrs d'eux, ils ont tellement peur de qu'ils subissent la même chose que Jésus. Ils ont peur de mourir, en fait. Ils ont peur. Voilà, ils savent pas trop bien quoi. Jésus est mort, c'était leur Seigneur. Et Jésus intervient. Et bien sûr, il est venu par 2 fois se présenter à eux. Cette fois-là, Thomas est là. Alors, Jésus dit à Thomas, viens un peu, Thomas. Voilà, il y avait quelque chose de très amical à lui dire. Hein, c'est de regarder, regarde Thomas. Hein, les marques de mes clous et les marques des clous, hein, et mets ton doigt et mets aussi ta main dans le côté. Ne doute pas, ne sois pas incrédule, mais crois. Et Thomas pourra avoir, il y a un beau tableau qui existe, hein, il y a plusieurs tableaux qui ont été faits dans le monde dans les siècles précédents, et c'est vrai que Thomas met son doigt,
dans les marques des clous, puis il reconnaît que Jésus est son Seigneur et son Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu, il reconnaît. Et Jésus lui dit, tu as cru parce que tu as vu. Heureux ceux qui ont cru sans voir. C'est une autre béatitude. En dehors des huit, il y en a aussi. Heureux ceux qui ont cru sans voir. Ont cru sans voir. Ouais. Alors, Jésus, il veut vraiment ouvrir nos yeux. Je crois que c'est tellement important, hein, les yeux de notre cœur. Nous n'avons pas l'occasion de voir Jésus, d'accord? Mais nous le voyons par les Écritures, par les yeux de notre cœur, par les yeux de notre foi. Hein, nous réalisons par l'Écriture, par les Saintes Écritures, qu'il est vivant, et puis nous faisons l'expérience de sa vie en nous par le Saint-Esprit. Hein, le Saint-Esprit qui manifeste les intentions de Dieu à notre égard, l'amour de Dieu qui coule dans nos cœurs, la paix de Dieu qu'on reçoit quand nous avons demandé pardon pour nos péchés, nous avons vraiment invoqué le Seigneur, et le Seigneur est venu faire son œuvre, sa demeure dans notre vie. Et là, il y a l'expérience du salut, et aussi, comment je vais dire, l'assurance du salut. L'assurance du salut. La parole de Dieu, les promesses de Dieu nous donnent de l'assurance. Il n'est pas question de douter, est-ce que j'ai la vie éternelle, j'espère que je l'aurai un jour. Non, c'est par la foi, nous recevons l'assurance que Dieu a payé, que Jésus a payé nos fautes et que nous sommes à lui. Hein. Et puis nous faisons l'expérience par le Saint-Esprit que nous appartenons. Et c'est très important. Alors, les disciples d'Emmaüs, c'est une autre expérience. Les disciples d'Emmaüs, juste avant, ça se passe un peu avant, c'est raconté par Luc. Thomas, c'était raconté par l'évangéliste Jean. Hein, dans Luc, on voit les deux disciples d'Emmaüs. C'était avant que Jésus ne rejoigne le groupe des disciples. Il y en avait deux qui allaient vers Emmaüs. Et ils étaient tristes. Et puis Jésus les rencontre et marche avec eux. Ils se rendent pas compte que c'est Jésus. Et voilà, Jésus leur demande, mais de quoi parlez-vous? Et les disciples disent, mais est-ce que le seul à ne pas savoir ce qui s'est passé à Jérusalem? Bon, Seigneur Jésus, il est décédé, il est mort sur la croix, et voilà, on est dans une tristesse énorme, on pensait que c'était lui le Messie, on attendait vraiment comme Messie, on était heureux, on avait un roi, on avait vraiment... Puis maintenant, on n'est plus sûr du tout parce qu'il est mort sur la croix. Alors, Jésus va parler de la loi, parler des prophètes, parler des écrits, tout l'Ancien Testament, hein, qui était divisé en trois parties, hein, pour les Juifs, et il va leur raconter tout ce qui le concerne, tout ce qui concernait sa première venue, sa mort, ses souffrances, sa mort et sa résurrection au travers des écrits. Au travers de la loi, des écrits de David dans les psaumes, au travers des prophètes, des prophéties. Et donc, il va leur parler. Et leur cœur va se réchauffer. Ils vont être encouragés par cette parole. Ils vont être édifiés, fortifiés. Et quand ils arrivent à Emmaüs, Jésus semblait partir par un autre chemin, continuer. Et les disciples disent, ah, est-ce que tu voudrais pas venir avec nous manger? Et puis, bon, ils acceptent. Ils n'ont pas toujours pas reconnu que c'était Jésus. Et puis, ils lui demandent de rendre grâce. Ouais, ils mangent, ils vont manger, donc Jésus va rendre grâce. Et au moment où il rend grâce, certainement, ils voient les marques des clous sur les mains. En tout cas, ils le reconnaissent. À ce moment-là, ils le reconnaissent, mais c'est lui. C'est lui. Et puis, à ce moment-là, hop, ils ne le voient plus. Il disparaît. Et ils sont dans une joie extrême, et il se rappelle, mais notre cœur ne brûlait-il pas quand il nous racontait tout cela sur le chemin? Et ils vont courir jusqu'à... Vous rendez compte, de Jérusalem à Emmaüs, ils sont dans la tristesse, la tête baissée, et puis ils repartent d'Emmaüs, ils font le chemin deux fois plus rapidement jusqu'à Jérusalem, hein, c'est pas qu'ils ont bu de la potion magique, mais là ils défilent jusqu'à Jérusalem pour aller dire aux autres disciples, et les gars, on a vu Jésus, il est ressuscité. Extraordinaire. Et bon, ils vont avoir des doutes. Hein. Même quand ils vont voir Jésus au milieu d'eux, et encore, ils pensent voir un esprit. l'Esprit, c'est Jésus, c'est lui-même. Et puis, il va devoir même manger avec les disciples, vous n'avez pas du pain, du poisson, et il va manger avec eux pour bien leur montrer qu'il est physiquement là, pas l'Esprit. Et on voit avec les disciples d'Emmaüs ceci. Deux choses. Au chapitre 24 de Luc, alors leurs yeux s'ouvrirent et le reconnurent. Quand il va manger avec eux, alors leurs yeux s'ouvrirent et reconnaissent que c'est bien Jésus. Les yeux s'ouvrent. Deuxième chose, verset 45, alors il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. Il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. Parce que c'est tellement important que nos yeux s'ouvrent et que notre intelligence soit ouverte par le Seigneur. C'est à partir de ce moment-là, les choses sont limpides. Tant que l'intelligence, notre intelligence n'est pas ouverte, eh bien, on ne peut pas comprendre les Écritures. Vous allez me dire, il y a une part de nous, il y a une part de Dieu, évidemment, toujours. Il n'y a pas que, si Dieu, toi, tu m'as pas ouvert l'intelligence, j'en peux rien, hein. J'en peux rien du tout. Non, il y a une part de nous, et, un désir de connaître, un désir de savoir, un désir de la vérité, une recherche du vrai, une recherche de qui est Jésus, de vraiment. Et quand il y a cette recherche, ben, forcément, vous faites un pas vers Dieu, et Dieu en fait 100 vers vous, toujours. Et vos efforts seront toujours récompensés. Si vous faites une démarche vers Dieu, vous serez toujours récompensé, si la motivation est juste. On s'approche pas de Dieu pour simplement dans le but de recevoir quelque chose. Ça, c'est malencontreux. Mais si on s'approche de Dieu vraiment pour le connaître, lui, parce que la vie éternelle, c'est connaître le Père et celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ, Jean chapitre 17, verset 3. C'est ça, la vie éternelle, c'est connaître le Père et connaître son Fils. Et la vie éternelle ne peut pas être simplement recevoir des biens de la part de Dieu, ce ne sera pas ça. C'est une recherche de connaissance, c'est connaître. Connaître, c'est intimité. Ça nous parle d'intimité, la connaissance. Hein. On voit dans la Bible, l'homme et la femme qui se connaissent, ils ont des rapports intimes. Connaître Dieu, c'est avoir une intimité avec lui, avoir cette connexion avec le divin. Ce désir fort d'être avec Dieu, d'être associé à Dieu, d'être en Dieu, en Christ, extraordinaire. Donc deux choses importantes, que nos yeux s'ouvrent, que Dieu illumine les yeux de notre cœur et que Dieu nous ouvre notre intelligence. Je crois que c'est tellement important, ces choses-là, Dieu veut les accomplir. Alors, il nous faut des yeux pour voir la protection de Dieu sur nos vies. La protection. Vous savez, à l'heure du terrorisme, tout le monde a peur. Il y a des gens qui ont peur. Et ils ont tellement peur. Hein? Et vous allez me dire, il y a de quoi? Parce que ça peut toucher les croyants et les incroyants. Hein? Soyons quand même les deux pieds sur terre. Mais Dieu peut nous protéger aussi. Il faut savoir que c'est vrai que quelquefois, même les justes ne sont pas épargnés des malheurs. Il pleut sur les bons et sur les justes. Bon, on va pas dire qu'il y a absence de problèmes et de catastrophes sur les justes. Mais Dieu peut nous en protéger, peut nous en délivrer. Il arrive souvent des malheurs aux justes, mais de tous, Dieu l'en délivre. Toujours. Hein? Je crois que c'est très important. Alors, j'aimerais bien qu'on lise dans 2 Rois au chapitre 6. 2 Rois au chapitre 6. 2 Rois au chapitre 6, verset 8. Donc c'est Élisée, le prophète Élisée. C'est un homme de Dieu qui a remplacé Élie, finalement, qui a succédé, on va dire comme ça, succédé au prophète Élisée. Alors, au verset 8, le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Il consulta ses serviteurs et dit, mon camp sera à tel ou tel endroit.
Mais l'homme de Dieu envoya dire au roi d'Israël, « Garde-toi de passer par cet endroit, car les Syriens y descendent. » Alors le roi d'Israël envoya des gens vers l'endroit que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu pour s'y tenir en observation. Cela n'arriva pas seulement une ou deux fois. Le roi de Syrie eut le cœur troublé par cette affaire. Il appela ses serviteurs et leur dit, « Ne voulez-vous pas m'indiquer lequel de nous est pour le roi d'Israël ?» L'un de ses serviteurs répondit, « Personne, monseigneur le roi. Seulement, le prophète Élisée, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Le roi dit, « Allez voir où il est, et je l'enverrai prendre. » On vint lui rapporter, il est à Dothan. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui encerclèrent la ville. L'assistant de l'homme de Dieu se leva de bonne heure et sortit. Et voici qu'une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Le jeune serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous ? » Il répondit, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria en disant, « Éternel, ouvre ses yeux, je t'en prie, pour qu'il voie. » L'Éternel ouvrit les yeux du jeune serviteur qui vit ceci, la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Et donc, voyez, il y a guerre entre le roi de Syrie et Israël, et là où le plan de l'ennemi essaie toujours de nous attaquer, hein, nous savons ça, et ici c'est les Syriens qui avaient localisé où se trouvait le camp des Israélites, et ils avaient décidé d'attaquer Israël. Seulement quand ils arrivaient, Israël n'était plus là, ils avaient changé d'endroit. À cause de quoi? Parce que Élisée avait reçu une parole de Dieu. Il avait entendu la voix de Dieu et savait que faire. Il faut quitter cet endroit pour aller dans un autre. Et ainsi de suite. De telle manière que chaque fois que les Syriens voulaient tomber sur Israël, ils n'étaient plus là. Et donc, Dieu les protégeait de cette manière. Et le roi de Syrie mais ne comprenait pas cette histoire. Il y a vraiment quelqu'un qui me trahit dans mon camp. Il y a quelqu'un qui vient de tout dire ce qu'on raconte hein, en petit groupe ici, hein, entre ses chefs. Il y en a un qui fait fuir les informations. Et ce n'était pas ça. Mais on lui dit que c'est le prophète Élisée, hein, va raconter au roi d'Israël tout ce que le roi de Syrie dit dans sa chambre à coucher, au point où tout est entendu dans le sens que le Dieu d'Israël, c'est tout. On peut pas faire autrement. En tout cas, ce qui est intéressant ici, c'est que le serviteur d'Élisée, hein, ce qui se passe, c'est que le roi de Syrie envoie ses serviteurs pour prendre le prophète, puisque c'est son ennemi. Hein, en l'occurrence, c'est le peuple d'Israël, mais c'est surtout le serviteur de Dieu, puisqu'il raconte tout. Puisque c'est à cause de lui qu'il n'y a pas moyen d'attraper le camp, d'avoir la victoire sur le camp d'Israël, et donc il décide de prendre le prophète, d'aller chercher le prophète là où il se trouve, et le serviteur du prophète voit tout autour de là où habite le prophète les ennemis. Ils se trouvent tous tout autour, ils se disent voilà, là on est foutus. Hein. On est foutu, t'as vu, Élisée, là, c'est nos derniers jours, on va faire une dernière prière, puis, et c'est fini, quoi, hein, terminé. Et Élisée va prier pour son serviteur qui ne voit pas la protection du Dieu Tout-Puissant. Alors, quelquefois, nous ne voyons pas, qu'est-ce qu'il y avait autour, qu'est-ce qu'il y avait entre le peuple syrien et le prophète et son serviteur, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des chars de feu, il y avait des chevaux, des chars de feu, une protection extraordinaire. Des fois, nous ne réalisons pas que nous sommes couverts par le sang de Jésus, que l'ennemi ne peut rien faire. L'ennemi est comme un chien qui aboie, qui est tenu par une grande laisse et qui, dont la laisse est trop, ne laisse pas assez de place pour venir sur nous. Mais il peut nous faire peur, c'est tout ce qu'il peut faire. Nous sommes couverts du sang de Jésus. Couverts du sang de Jésus, n'arrivera que ce qui doit arriver. Mais en tout cas, Dieu est capable de protéger nos vies. Dieu est capable de nous préserver de tout danger, de tout mal. Mais le serviteur a eu besoin de la prière d'Élisée pour voir la protection de Dieu. Est-ce que vous réalisez la protection de quoi, comment Dieu vous protège? Il y a des milliers d'exemples, hein, des milliers d'exemples de protections diverses. Hein, j'aurais dû aller avoir des accidents multiples en voiture et Dieu m'en a préservé. C'est pas pour ça qu'il faut foncer à 200 à l'heure partout, mais il faut respecter les limites de vitesse, hein, déjà, et puis faire attention en temps de brouillard, faire attention à beaucoup d'endroits, beaucoup de situations diverses. Mais même en faisant attention, quelquefois, ça peut être quelqu'un d'autre qui vient contre nous. On passe des fois à quelques millimètres d'un accident, hein. Ça peut arriver, hein. Même en faisant attention, même en étant très prudent, même en allant pas vite, en allant même moins vite que la limite de vitesse, on peut même avoir des accidents. Parce qu'il faut peu de choses, hein. Un conducteur ivre vient sur nous, parce que qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai une fois la blague, on ne sait pas faire grand chose. Voilà, les Syriens ont dû au moins apprendre une chose, ils ont dû admettre que le Dieu d'Israël et d'Élisée est différent de leur Dieu. Ça c'est clair, il voit, il entend, il connaît. D'un autre côté, Élisée manifeste aussi que Dieu est bon. Et nous voyons dans la deuxième partie, on va lire la deuxième partie. L'aveuglement est souvent synonyme d'incrédulité et finalement de jugement. Le jugement de Dieu vise un changement de perspective. On va voir que dans la deuxième partie qu'on a parlé, à partir du verset 18, cette fois-ci, les Syriens descendirent vers Élisée. Alors il pria l'Éternel en disant « Frappe d'aveuglement cette troupe, je t'en prie. » Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit « Ce n'est pas ici le chemin et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. » Il les conduisit à Samarie. Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit « Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. » L'Éternel ouvrit leurs yeux et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée « Frapperai-je mon père ?» Il lui répondit « Tu ne frapperas pas. Est-ce que tu frappes ceux que tu fais prisonniers avec ton épée et avec ton arc ? Mets devant eux du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent. Qu'ils s'en aillent ensuite vers leur seigneur. » Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas, et ils mangèrent et burent. Puis il les laissa partir, et ils s'en allèrent vers leur seigneur. Les troupes des Syriens ne continuèrent plus à venir dans le pays d'Israël. En fait, c'est incroyable. Donc, tous les Syriens sont autour du camp, sont autour de là où habitait le prophète, et il va les frapper d'aveuglement. Ils vont tous être aveugles. Tout le camp des Syriens va être aveugle et on va les conduire, parce qu'ils ne savent plus où ils sont, d'accord ? Et on va les conduire au milieu de Samarie, là où se trouve toute l'armée d'Israël, et ils vont se retrouver là au milieu de Samarie. Et là, ils vont retrouver les yeux. Alors, qu'est-ce qu'ils vont voir tout autour d'eux ? Ils vont voir les ennemis qu'ils voulaient attaquer. Hein. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va leur servir un banquet extraordinaire, un festin formidable. On va pas les tuer, sûrement pas. C'est pas ça qu'il fallait faire. Dieu est un Dieu de bonté, alors on va faire un super festin, et puis on va les renvoyer chez eux. Et plus jamais, ils vont oser, en tout cas cette génération-là, ils vont plus oser revenir en Israël. D'accord? Ils vont laisser la paix à Israël. Ça, c'est extraordinaire, l'œuvre de Dieu, c'est puissant. Hein? L'aveuglement, ici, est synonyme d'incrédulité, finalement de jugement. Mais un jugement de Dieu rempli d'amour, on le voit, qui vise un changement de perspective. Le but de Dieu, c'est un changement de perspective, un changement de regard. Alors, on peut le voir aussi avec Paul dans le Nouveau Testament. Paul, donc, il a été aveugle, vous savez, hein, sur le chemin de Damas. Hein, il allait pour prendre les chrétiens, les conduire à Jérusalem, les mettre en prison, etc. C'est ce qu'il avait déjà fait à Jérusalem, il voulait aller jusqu'à Damas. Il était vraiment zélé, un zèle incroyable, mais un zèle amer, un zèle contre l'Église, un zèle contre le Christ qui ne reconnaît pas comme le Seigneur. Et pour lui, il n'y a rien à faire, tous ces chrétiens, il faut les arrêter, il faut arrêter avec cette Église, ça ne va pas, ça ne marche pas, c'est pas normal, c'est pas ça, c'est pas la volonté de Yahvé, on va les mettre en prison, tous ces gens. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu va intervenir sur le chemin de Damas et il va être mis par terre, le cas de dire. Il va être mis par terre et il va être rendu aveugle, il va entendre la voix de Jésus. Et il va être aveugle, vous savez combien de temps? Pendant 3 jours, pas pour le reste de sa vie, hein. Rien que 3 jours. Et 3 jours, c'est la durée entre la mort et la résurrection de Jésus. Comme ça, il a le temps de méditer, comme ça, il a le temps de demander pardon pour ses péchés. Et quand Ananias arrivera pour prier pour lui, pour recevoir le Saint-Esprit, il recevra des promesses. Comme quoi, il sera un instrument de choix pour publier son nom parmi les nations. Extraordinaire. Je crois qu'il y a quelque chose de beau qui va se passer. L'aveuglement est perçu par Paul comme le jugement d'un père rempli de compassion qui désire changer notre orientation. C'est bon ça. Hein? Il y a un changement d'orientation. Hein? Extraordinaire. Parce que après, qu'est-ce qui se passe, Paul? Il ne cherche plus à détruire les chrétiens, il est devenu chrétien lui-même. Il va chercher à convaincre les Damasiens, je ne sais pas si on appelle ça comme ça, tous les habitants de Damas à suivre le Christ. Il va le faire dans les synagogues. Après, les Juifs vont dire, oh, qu'est-ce qui se passe ici? Il raconte quoi, lui? Un ami, hein, un de nos compatriotes, un de nos amis, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Et donc, il va vraiment prêcher la parole de Dieu avec puissance. Alors, Paul va se servir de cette expérience. C'est incroyable. Dieu utilise Paul, et Paul utilise l'expérience qu'il a eue sur le chemin de Damas avec une autre personne. Vous allez voir ça. Incroyable. Et ce sera une expérience marquante comme signe pour mettre en lumière la vérité qu'il proclame. Il proclame une vérité, il va la manifester de cette manière. En acte 13, verset 6. Disons ceci. Acte 13, verset 6. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Donc, à Paphos, qu'est-ce que Paul faisait? Ben, il évangélisait, hein. Hein, d'accord? Avec Barnabas. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Verset 8. Mais Elymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur ? Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle, et pour un temps tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. » Pour un temps. Et ça fait appel à un jugement, mais rempli d'amour et de compassion du Seigneur. Afin que la personne puisse aussi réfléchir à ses agissements, à ses paroles, et puis puisse revenir à Dieu, demander pardon, et puis la vue lui est rendue. Mills Monroe a dit ceci, le pire ennemi de la vision, c'est la vue. Le pire ennemi de la vision, c'est la vue. Combien de fois cessons-nous de croire aux promesses que Dieu a en réserve pour nous à cause de ce que nos yeux voient dans le moment présent? Quelquefois, on cesse de croire aux promesses de Dieu parce que la vue des circonstances actuelles nous montre tout le contraire. Et alors, dans notre affliction par rapport aux situations présentes, on cesse de croire. Mais non, la parole de Dieu, elle reste la parole de Dieu. Et j'oserais plutôt dire que les circonstances actuelles sont quelquefois un mensonge, dans le sens de notre foi. Des fois, les tempêtes font croire que ça va de pire en pire. Des fois, les gens qui s'approchent de Dieu et qui veulent accomplir la volonté de Dieu, eh bien, l'ennemi leur envoie une tempête pour leur dire, tu vois, tu as prié, ben, c'est le contraire qui arrive. C'est encore pire. Tu vois, arrête de croire. Allez, on va bouler tout ça. Ça ne sert à rien du tout. Et quand Jésus était dans le bateau, de l'autre côté, il y avait un Gadara, et ils allaient pour une mission spéciale, mais qu'est-ce qui s'est produit sur le bateau? Une tempête épouvantable. Hein? Alors, il faut pas être perturbé dans notre vie quand il y a un plan parfait qui est devant nous, forcément, et que l'ennemi voit que nous allons atteindre l'autre côté. Il va tout faire pour nous détourner, pour nous casser, nous démolir. Et la tempête qui vient sur le bateau, c'est aussi une tempête d'angoisse, où on peut soit laisser tomber les bras, soit chercher Dieu, chercher le courage, la force, l'appui de Dieu dans le moment le plus difficile, le plus dramatique de notre vie. Et Dieu est là, bien sûr. Et c'est vrai que quelqu'un a dit que ceci, je crois que c'est fort important, que si nous n'avons pas appris à chercher Dieu, nos frères, je pense, André, si nous n'avons pas cherché à prendre appui en Dieu, à chercher la puissance de Dieu pour nos vies, quand c'est pas trop difficile, en temps normal, nous n'aurons pas facile de le rechercher en temps difficile. Nous lui remettrons la faute. Comme dans l'Apocalypse, on voit des gens qui blasphémaient. Ils souffraient, mais à la place de rechercher Dieu, ils accusaient Dieu. Hein? Quand tout allait bien, ils disaient que Dieu n'existait pas. Mais quand ça va très mal, c'est à cause de Dieu. Ils blasphémaient contre Dieu.
Si nous ne louons pas Dieu dans les bons moments,
on le blasphème dans les mauvais moments. On l'accuse. Alors, si vous voulez être fort dans les moments difficiles, il faut déjà être fort avec Dieu dans les moments où tout va bien. Parce qu'il risquerait de se produire la situation de l'Apocalypse. On blasphème contre Dieu pour les choses mauvaises qui nous arrivent. Et on n'a pas recherché quand tout allait bien. Et donc, c'est tellement important de réaliser ça. Merci, sœur. Vous souhaitez ardemment peut-être un diplôme, soit universitaire ou autre, et la réalité est tout autre. Vous avez des difficultés peut-être pour subvenir à vos besoins financiers, peut-être vous avez reçu la promesse d'un ministère, d'une entreprise florissante, d'une grande carrière, d'une famille unie, réunie, bénie, et vous êtes prisonnier d'un emploi qui ne semble mener à nulle part, où il n'y a pas de travail peut-être. On rêve quelquefois de fonder un foyer, mais on est célibataire, au chômage, malade. Le scénario actuel de notre vie donne des contradictions par rapport à la vision. C'est ça le problème, c'est qu'il y a des fois des contradictions entre la vision et la réalité. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais selon la vision ou selon la réalité? Si je travaille selon la réalité, je vais avoir un mur, un obstacle impossible, infranchissable. Et Dieu nous permet de franchir les obstacles par la foi. Si nous n'avons pas la foi, si nous n'avons pas les yeux du cœur qui cherche Dieu et sa force en toute situation, nous risquons de ne pas aller plus loin. Dieu fonctionne toujours pour briser la logique humaine. Hein, il y a des logiques, mais Dieu va au-delà de la logique. Parce qu'il est souverain, il est Dieu, et il peut faire tout ce qu'il veut. Alors, on ne doit pas travailler avec une vision humaine, charnelle, mais en fonction des promesses de Dieu. C'est les promesses de Dieu qui doivent nous guider dans notre vie. On ne doit pas bâtir en fonction de ce que nous connaissons, mais en relation avec la révélation que Dieu nous donne. Ainsi, nous allons pouvoir réussir en voyant plus loin, en regardant aux promesses, à celui qui promet et qui a la capacité d'accomplir ce qu'il promet. Le conseil de Jésus, on le trouve dans Apocalypse 3:18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Et on voit les colliers, ce sont des gouttes ophtalmiques, qui sont des médicaments liquides qu'on applique sur la conjonctive de l'œil. Galien, chez les Romains, au temps des Romains, au temps de Jésus donc, et de l'Apocalypse, avait déjà préparé des colliers à base d'huile d'olive, et ça existait déjà à ce temps-là, c'est pour ça que dans l'Apocalypse, on parle du collier. Alors, demandons à Dieu de mettre ce collier sur nos yeux afin de voir avec une parfaite vision. Hein, Éphésiens chapitre 1 verset 18, verset très connu, que Dieu illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints. Donc Dieu veut illuminer les yeux de notre foi, les yeux de notre cœur, que nous puissions voir ce à quoi Dieu nous appelle. Et que nous puissions être encouragés, parce que Dieu veut nous encourager. Dieu veut nous bénir. Hein? Il nous arrive des fois des situations difficiles afin que nous puissions avoir une autre perspective, un autre regard par rapport aux promesses de Dieu. Les promesses de Dieu vraiment s'accompliront. Et c'est ça qui est important. C'est pas notre plan, mais c'est le plan de Dieu qui s'accomplira. C'est pas notre vision des choses, c'est la vision du Seigneur qui s'accomplira. Donc, je dois me soumettre à cette vision, qui est bien meilleure que la mienne, que mes beaux projets, si beaux soient-ils. Notre pire ennemi, le pire ennemi de la vision, c'est la vue. Pas mal, ça. Le pire ennemi de la vision, c'est la vue. Nous puissions voir avec les yeux de notre foi. Prions. Seigneur Père, nous voulons vraiment te remercier parce que, Seigneur, nous voulons te donner nos yeux, Seigneur, les yeux de notre foi, les yeux de notre cœur. Un peu comme les Éphésiens qui, à Milet, voulaient s'arracher les yeux pour les donner à Paul. Il semblerait que Paul avait des problèmes au niveau des yeux et ils auraient été prêts à, dans leur amour pour lui, arracher leurs yeux pour lui donner. Seigneur, voulons te donner, Seigneur, nos yeux, et que tu puisses te révéler, Seigneur, à nos yeux spirituels, aux yeux de notre cœur, avec ta perspective, avec tes promesses, parce que tes promesses, elles sont oui, amen. Seigneur, nous voulons tout te déposer entre tes mains. Nous voulons te laisser faire dans nos vies, Seigneur. Nous voulons nous abandonner à toi. Merci parce que tu es fidèle, parce que tu es tendre. Merci Jésus.